À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Salut tout le monde, 19 février, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace après une semaine de relâche, une belle petite semaine de vacances. On est de retour avec plein de choses au menu aujourd'hui. On va parler de hockey junior, évidemment, de hockey de la Ligue américaine, un petit tour du côté du Midget 3. On va même aller faire un tour en Alberta aux Jeux du Canada alors que le tournoi de hockey masculin est en marche présentement. L'équipe du Québec qui, incidemment, va très bien. Demain, à Gatineau, on va retirer le chandail de Claude Giroux, qui a connu, évidemment, une superbe carrière junior avec les Olympiques. On va en parler avec son entraîneur de l'époque, Benoît Groulx, à qui on va parler un petit peu plus tard. Il est à Syracuse, évidemment, l'entraîneur-chef du Crunch de Syracuse. Et comme c'est le cas chaque semaine, on a notre collaborateur régulier, Raphaël Doucet, qui est avec nous pour nous parler de la dernière semaine du Rocket de Laval. Semaine, en fait, qui s'est aussi amorcée hier. La nouvelle semaine s'est amorcée hier avec un match en après-midi à Belleville auquel j'ai assisté. Raphaël, qui est analyste au 91,9, la station de radio qui diffuse les matchs du Rocket. Salut, Raphaël.
Salut, Stéphane.
Écoute, on était là hier à Belleville tous les deux. On a vu le match contre les Sénateurs. Et d'un commun accord, je pense qu'on s'est dit à la fin du match, c'est une rencontre que le Rocket n'aurait pas dû échapper.
Non, exactement. Et puis, il faut blâmer en partie le Charlie Lindgren parce que le match a pris une tournure un petit peu spéciale en fin de première période. Le deux buts accordés par le Rocket alors qu'il évoluait en avantage numérique, c'est rare que tu vois ça. Le deux buts en 28 secondes. Et sur les deux, je pense, Stéphane, que tu vas être d'accord avec moi, Charlie Lindgren aurait pu et aurait dû faire l'arrêt. Et si le Rocket était revenu là après 20 minutes de jeu au vestiaire avec une avance de 1-0 au lieu d'un déficit de 2-1, ça aurait totalement changé la donne. Mais quand même, le Rocket s'est accroché, est revenu en force en deuxième et en troisième période. Menait même 3-2 lorsque Nick Paul a finalement créé l'égalité avec 2 minutes à faire. Et c'est un but, une situation un petit peu controversée en prolongation. Hein. Le but de Lucas Vedemo a été refusé et ensuite, 30 secondes après, Nick Paul a marqué. J'ai vu la reprise à une ou deux occasions et puis je pense que ce but-là de Lucas Vedemo qu'on a refusé là pour obstruction envers Carl Osner sur le gardien de but, je pense qu'il était bon. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais je pense qu'il était bon.
Effectivement, là, on peut pas dire qu'Osner avait vraiment accroché, mais l'officiel québécois Olivier Gouin avait été catégorique dès le moment où le jeu s'est fait. Il n'y a eu aucun doute dans son esprit. Et dans la Ligue américaine, on n'a pas la reprise vidéo là, comme on a dans la Ligue nationale. C'est sûr que ça fait mal, surtout que par la suite, le Rocket échappe le match. Normalement, hier, si tout se passe dans la norme des choses, Laval ajoute 2 points au classement, Belleville n'en ajoute pas. Ouais. Au lieu de ça, Laval n'en a ajouté qu'un seul et Belleville en ajoute 2 pour poursuivre sa séquence sans défaite en temps réglementaire. Écoute, il y avait eu malgré tout, 2 bons matchs à Binghamton durant la fin de semaine où le Rocket est allé chercher 2 victoires de suite pour la première fois en 1 mois. Alors, les négatifs, un peu comme j'ai commencé, parlent de la défaite d'hier qui aurait dû être une victoire. Les positifs disent, dans les 3 derniers matchs, c'est 5 points sur 6.
Oui, exactement. Et puis là, on a revu un petit peu le Rocket des beaux jours là, au cours des 3 derniers matchs. Une équipe là, qui est tenace, qui est fatigante en échec avant, qui met beaucoup de pression sur la brigade défensive adverse. Et c'est une équipe aussi qui, pour obtenir du succès, doit obtenir la contribution des 3 paires défensives et des 4 trios. Ce fut le cas lors des 3 derniers matchs. Si tu regardes un petit peu le match de samedi à Binghamton, les 4 trios ont marqué des buts, même le 4e avec Morgan Adams-Moisan. Et ce fut la même chose hier, lundi, à Belleville. Le 4e trio est allé chercher également un but, celui qui crée l'égalité 2-2, via le premier but en carrière dans la Ligue américaine de Hayden Verbeek. Donc, tout le monde contribue par les temps qui courent avec une récolte de 5 points sur 6. Mais malgré tout ça, on réussit pas à se rapprocher d'une place en série parce que hier, les Marlies de Toronto ont marqué 4 buts sans réplique là, en 3e période pour finalement vaincre le Crunch de Syracuse 5-3. Donc, les Marlies se retrouvent avec 11 points de priorité sur le Rocket avec 23 matchs à jouer. Ça va être difficile pour le Rocket. Pas impossible, mais très, très, très difficile.
Ah, il reste trois matchs contre les Marlies d'ici la fin de la saison, mais effectivement. Ouais. Et t'as Belleville aussi qui s'amène dangereusement. 13 matchs de suite sans défaite en temps réglementaire. Alors, on va espérer là, du côté de Laval qui va terminer demain à Syracuse cette séquence là, de 11 matchs sur 12 à l'étranger. Là. On en a parlé avec Joël Bouchard après le match hier. C'était une séquence rude, difficile, surtout pour une équipe qui est jeune comme le Rocket de Laval. Dis-moi, Raphaël, t'en as effleuré un mot, puis moi, j'aimerais ça qu'on développe un petit peu plus. Charlie Lindgren à 886 de taux d'efficacité depuis un an et demi. Là. C'était 886 la saison dernière et c'est 886 encore cette année avec le match d'hier. C'est pas suffisant. Là. Il faut qu'il en donne plus. C'est un gars à qui on a consenti un contrat, un volet de la Ligue nationale pour 3 ans. Et je suis d'accord avec toi. Là. Puis hier, j'en ai parlé dans mes interventions aussi au 5 à 7 à Hockey 360. Le bonhomme qui garde les buts en ce moment là pourrait en faire plus. Et si il fait juste jouer pour 900-905, il y a probablement 5-6 points de classement de plus, peut-être minimum.
Oui, pour ajouter un petit peu à tes statistiques, là, écoute, à ses 12 derniers départs, Charlie Lindgren, 10 fois, il a accordé au moins 3 buts. Là, tu parles du Rocket de Laval, c'est pas une puissance offensive. Donc, tu places ton équipe dans le trouble parce qu'à chaque fois, au presse, tu accordes au moins 3 buts. Et puis, je sais pas si tu es un expert en mathématiques, mais pour aller chercher la victoire dans ces circonstances-là, ça prend au moins 4 buts. Et ça, c'est pas l'ADN là, du Rocket, aller chercher 4 buts dans un match. Donc, Charlie Lindgren, je suis un petit peu déçu. J'étais déçu de lui l'an dernier, mais je le suis encore plus cette année. Pourquoi? Parce qu'on lui a accordé un grand vote de confiance avec 3 années de contrat à un seul volet. Et puis là, il réplique de la sorte. Il ne convainc personne présentement dans la Ligue américaine. Et si tu convaincs personne dans la Ligue américaine, ben ça va être très difficile de faire la même chose dans la Ligue nationale. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec Charlie Lindgren. Est-ce qu'on va le laisser à Laval pour le reste de la saison? Est-ce qu'on va le mettre comme adjoint à Carey Price la saison prochaine? Ou carrément, on va décider de le passer dans une transaction là, d'ici le 25 février ou encore cet été? Ça va être intéressant à suivre Charlie Lindgren parce qu'il a 25 ans. Il lui reste encore 2 années de contrat à 750 000 par année. Donc, son contrat est quand même assez échangeable. Mais est-ce qu'il y a une équipe dans la Ligue nationale qui voit en Charlie Lindgren vraiment un adjoint de la Ligue nationale pur et dur? Je suis pas certain.
Non, effectivement. Puis le Rocket est pris dans une position, là, en fait, l'organisation du Canadien. L'an passé, Lindgren était évidemment l'homme de confiance. Celui qui avait les meilleures statistiques, c'était Zach Foucarlé. C'est lui qui jouait le moins. Cette année, celui qui a eu les meilleures statistiques, c'est Connor Lacouvé. Il est dans la ECHL au moment où on se parle. Et McNiven a de meilleures statistiques aussi que Lindgren. Alors, c'est pas évident en ce moment. Là. C'est toujours le grand dilemme. On veut gagner, on veut développer. Ce sera à suivre, ce dossier-là. Écoute, je sais que tu es à Syracuse. Demain, c'est le dernier match là, de cette séquence de 11 sur 12. Ça ne sera pas évident demain non plus contre le Crunch. Là.
Non, vraiment pas. Le Crunch est toujours une puissance de la Ligue américaine. Là. L'équipe dirigée par Benoît Groulx bataille présentement avec les Americans de Rochester pour le premier rang de la Division Nord. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Crunch a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, dont hier à Toronto, là, une défaite de 5-3. Donc peut-être que cet adversaire-là présentement est prenable, mais c'est toujours difficile aller l'emporter à Syracuse. Écoute, on a une bonne brigade défensive. On a un jeune gardien de but, Connor Ingram, qui connaît une très bonne saison, une saison surprenante. Moi, j'avais un point d'interrogation concernant le Crunch de Syracuse cette année. C'était la tenue de Connor Ingram, mais il est convaincant jusqu'ici. Et puis en attaque, là, inutile d'élaborer sur le Crunch de Syracuse, tellement qu'on a des munitions. Le vétéran Andy Andreoff, Corey Conacher et un certain Alex Barry-Boulay, là, notamment. Barry-Boulay fait partie présentement là, du top 5 des recrues de la Ligue américaine. Il est pratiquement à un point par match. Il n'y a pas grand monde qui aurait prédit ça. C'est aussi bon qu'il pu être avec les Voltigeurs de Drummondville ou encore l'Armada de Blainville-Boisbriand. Moi, j'avais hâte de le voir aller dans la Ligue américaine, puis il est franchement convaincant. Très, très bon, Alex Barry-Boulay.
Raphaël, merci beaucoup. Donc, le Rocket joue demain à Syracuse, vendredi et samedi à la Place Bell contre le Moose du Manitoba qui va faire sa visite annuelle. Merci beaucoup, Raphaël. On se reparle très, très bientôt. Et moi, je vais tout de suite vous présenter un extrait d'entrevue qu'on a effectué hier au terme de la rencontre à Belleville avec l'attaquant Michael Chaput qui a marqué ses 2 premiers buts en 35 matchs si on compte son séjour avec le Canadien. Il a marqué 2 beaux buts et ça lui a fait du bien. Donc, Michael Chaput hier après-midi à Belleville.
Michael, c'est quand même une défaite qui fait mal. Là. Vous l'aviez, ce match-là?
Oui, je pense qu'on a bien commencé la partie. On a donné 2 buts plates en supériorité numérique. Puis on est revenu dans le match, puis on gagnait jusqu'à la fin. Là, on a fait des petites erreurs qui nous ont fait mal. Là.
Pour toi, personnellement, de marquer, là, je sais que ça faisait longtemps que tu n'avais pas marqué des buts. Tu as marqué deux gros buts quand même. Là. Ça doit t'enlever un peu de poids sur les épaules.
Oui, ça fait du bien. Là. Ça faisait, je pense, 30 quelques games. Puis ouais, c'est juste de pouvoir aider l'équipe aussi, ça, de ce côté-là, ça fait du bien.
On a l'impression que cette équipe-là est jeune, elle manque un peu d'expérience. Puis on a de la misère justement dans les fins de match. Je faisais une comparaison, c'est comme au baseball, tu sais, fermer la game là, avec un stopper à la fin, là, on n'a pas été capable de l'avoir.
Oui, c'est sûr qu'on a une jeune équipe. Mais je pense que les gars sont quand même bien préparés. C'est... Mais tu sais, la ligue est dure, puis il faut toujours 60 minutes parce que, comme on l'a vu encore une fois, jusqu'à la fin, là, même qu'il reste 2-3 minutes, puis tu gagnes par un but, il faut que tu closes les games. Là.
T'as pas fait tout le voyage, là, mais ça allait quand même bien en fin de semaine avec Binghamton. Vous avez pris du rythme un peu. Là. C'est un point de perdu, mais il reste que vous êtes encore mathématiquement possible de rejoindre les équipes en avant.
Oui, exactement. On a gagné 2 grosses games, puis là, ça aurait été le fun d'avoir le 2e point ce soir, mais on en a eu un. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va le prendre, même si c'est pas ce qu'on voulait. Mais là, il va falloir la Syracuse, puis essayer de gagner un gros match. Là.
Après 32 matchs dans LNH, de revenir là, comment tu vis ça? Là?
Ça fait partie de la game. J'essaie de. C'est sûr que c'était décevant au début, mais je pense qu'après 24 heures, il faut que je me remette dedans, puis que je vienne ici, puis que je travaille fort, puis que j'essaie d'aider l'équipe ici.
Alors voilà, c'était Michael Chaput, entrevue que j'ai réalisée hier après-midi à Belleville au terme de la rencontre entre le Rocket de Laval et les Sénateurs. On va rester dans la Ligue américaine. On parlait avec Raphaël Doucet il y a quelques instants qui était à Syracuse. On en rejoint un autre qui est à Syracuse. C'est l'entraîneur-chef du Crunch, Benoît Groulx. Salut Benoît, comment vas-tu?
Très bien, merci.
Écoute, Benoît, premièrement, un mot sur le Crunch de Syracuse. Encore une fois, une des bonnes équipes de la Ligue américaine cette année. Vous avez une saison quand même très intéressante. Déjà 30 victoires en 50 matchs. Top 5 de la Ligue américaine en termes d'efficacité. Tu dois être quand même satisfait de la façon dont ça se passe pour ton équipe.
Oui, écoute, on a eu un début de saison assez tranquille. Par la suite, on a eu 2 séquences extraordinaires. Une entre autres de 18 victoires, 3 défaites et 2 défaites en prolongation et une autre séquence de 8 victoires de suite. Donc, ils nous ont très bien positionnés, mais tu sais, comme tu le sais, Stéphane, dans la Ligue américaine, c'est malgré toutes ces séquences de victoires-là, on n'est toujours pas détaché du peloton. Il y a seulement les 4 premiers qui font un play-off. Et donc, on est dans une bataille là avec 6 équipes là, dans notre division pour... vraiment là participer aux séries éliminatoires. Pour nous autres, on est une des équipes là qui souhaite là se qualifier, mais ça sera pas facile, ça va être une bataille jusqu'au bout.
Benoît, Raphaël en parlait il y a quelques instants. Une des belles histoires dans la Ligue américaine cette année, c'est Alex Barré-Boulay, qui est une recrue qui a déjà 43 ouais. points en 50 matchs. C'est un joueur que le Lightning a signé comme joueur autonome l'an passé. Il était dans la Ligue junior ouais. majeure du Québec avec l'Armada. Est-ce que tu es un peu surpris du rendement de Barré-Boulay cette année?
Ben écoute, il est arrivé chez nous et puis on savait naturellement ce qu'il avait fait au niveau junior. Puis on ne sait jamais là vraiment comment les joueurs vont s'adapter à la Ligue américaine. C'est une grosse adaptation, mais je pense que lui est arrivé. Et avec le background qu'il y a eu au niveau junior, c'est-à-dire les coachs qu'il y a eu, que ce soit Martin Raymond ou Joël à Blainville, je pense qu'ils l'ont très bien préparé là à arriver au niveau professionnel. Puis ça a aidé son adaptation, non seulement à notre façon de faire à Syracuse, mais aussi à la Ligue. Et puis, je pense qu'il te le dirait lui-même, Alex, là, il a commencé ici sans avoir trop d'attentes. Et puis, il s'est donné à tous les jours, et il a travaillé fort, et puis il s'est mérité des opportunités qu'il a saisies. Puis, tout a bien fonctionné. Donc, il a frappé... Un petit mur dernièrement, mais hier, il y a eu un très bon match à Toronto. Là, il y a un but, une pause. Donc, on espère qu'il est reparti. Mais tu sais, c'est une longue saison. Puis, tous nos jeunes en ce moment, là, ils travaillent fort là, pour avoir des bonnes performances parce que le jeu est vraiment serré. Tout s'est resserré. Puis, toutes les victoires sont dures à aller chercher.
Benoît, une des raisons pour laquelle on t'a contacté aujourd'hui, oui, Laval joue contre Syracuse demain, puis ça va ouais. bien avec ton équipe. Mais j'avais envie de te parler de ton ancien protégé avec les Olympiques de Gatineau, Claude Giroux, dont le ouais. numéro sera retiré demain soir au Centre Robert-Gartin, va aller rejoindre d'autres grands de l'histoire des Olympiques. Tu as dirigé ouais. Claude Giroux pendant 3 ans, 3 saisons de 100 points. Parle-moi de ce bonhomme-là un peu quand il était dans ton équipe avec les Olympiques.
Ben écoute, c'est un des rares joueurs là qui... avec son talent, sa passion et la façon dont il compétitionnait, qui faisait rêver les gens, les jeunes comme les moins jeunes. Je pense que les gens se déplaçaient là, à Gatineau pour venir le voir. Il gardait les gens sur le bout de leur siège parce que c'est un joueur extrêmement doué. Et avec l'arrivée de Claude, bien, ça nous a permis de rêver à gagner un championnat, ce qu'on a accompli en 2008. Et puis, pour moi, là, dans mes années que moi j'ai vécues comme entraîneur au niveau junior, je mets Claude Giroux là, dans la même brochette là, que Sidney Crosby, que Radulov, que Nathan MacKinnon. Je pense que ces quatre joueurs-là, dans mon esprit à moi, étaient des joueurs extrêmement dominants. Et je pense que ça a été les meilleurs joueurs là, dans lesquels j'ai coaché contre. Et puis, à un certain moment donné, je pense que Claude s'est aperçu là à 19 ans qu'il était probablement le meilleur joueur de la Ligue. Et puis, il s'est mis à y croire qu'il était le meilleur joueur de la Ligue, mais qu'il pourrait amener notre équipe là aux plus grands honneurs. Je pense que tout le monde croyait ça aussi, qu'il était le meilleur joueur de la Ligue. Puis que, tu sais, quand t'es ton meilleur joueur qui y croit, absolument les autres embarquent. Et puis, c'est ce qui a fait sa grande force. Mais ça a été... Tu sais, quand on retourne en arrière, Stéphane, on se rend compte là, qu'on a eu des années extraordinaires. Puis de coacher Claude, là, ça a été un privilège. Puis comme tu l'as mentionné, tu sais, 3 saisons sans points, trophée Guy Lafleur. Il a été un joueur spectaculaire pour nos partisans, pour toutes les partisans de la Ligue junior du Québec. Donc, ça a été vraiment le fun. Puis c'est un honneur très, très mérité. Là, tu sais, c'est un bon gars. Je suis sûr qu'il va être nerveux un petit peu là, demain de faire un speech. Là, Il est pas mal plus...
Il est meilleur sur Atlas qu'avec le micro.
Je pense qu'il est plus à l'aise. Je sais pas qu'il est meilleur, mais il est plus à l'aise. Je suis convaincu que ça doit faire 2-3 jours qu'il y pense.
Écoute, Benoît, je veux que tu racontes aux gens l'anecdote lorsque tu es allé le voir jouer la première fois avec André ouais. Chaput, qui était un de vos copropriétaires avec les Olympiques. C'est un gars ouais. qui jouait Junior A en Ontario à Cumberland. T'avais pas ouais. été nécessairement impressionné dès le départ, là.
Non, ben l'histoire a débuté. C'est le frère de Claude Julien, Richard Julien, qui était associé là, à l'équipe de Cumberland, puis qui connaissait Charlie Henry, puis nos propriétaires. Puis Richard nous avait appelé pour nous dire qu'il y avait un jeune là, à Cumberland qui fallait absolument aller voir, qu'il croyait en lui, que c'était un bon joueur, etc. Mais que ce joueur-là avait été atteint d'une mononucléose, puis qu'il avait presque pas joué après les fêtes. Et que là, son équipe, il jouait la moins bonne équipe, son équipe faisait pas les playoffs. Il restait un match ou deux à jouer, puis que c'était l'occasion de le voir jouer. Donc, on s'était déplacé pour aller le voir jouer. Puis, je vais te dire, on n'était pas prêt à le signer tout de suite, là. Loin de là. Tu sais, Richard nous avait dit la bonne information, c'est-à-dire qu'il jouait dans une équipe là, qui était une équipe de dernière place. Lui faisait son retour au jeu. Il était pas gros dans ses shorts, si tu veux me permettre l'expression. Mm-hmm. Il était pas il semblait fragile un petit peu, mais il se remettait de tout ça. C'est un patineur correct sans plus. Puis on voyait un certain talent chez lui, mais rien d'extraordinaire. Puis vraiment, on l'a invité au camp d'entraînement. Et puis quand il s'est présenté au camp d'entraînement, il y a eu un été d'entraînement, il y a eu le temps de se remettre là, de sa mononucléose. C'est vraiment là qu'on a vu qu'on avait un joueur spécial. Je me souviens que Charles Henry, on l'a regardé durant le camp des recrues, puis on se disait « Wow! » On est tellement content qu'il soit là. L'année a commencé, puis il a été extraordinaire. Puis j'ai toujours dit, puis je veux rien enlever là, à Angelo Esposito, mais je me souviens cette année-là, j'avais appelé les coachs et le directeur gérant dans la Ligue pour leur dire, les gars, le meilleur joueur de la Ligue, c'est Claude Giroux. Il mérite la recrue de l'année. Mais il y avait eu une deuxième moitié de saison. J'ai pas de statistiques pour j'ai pas les chiffres devant moi, mais il y avait une deuxième moitié de saison, là, phénoménale. Puis il avait vraiment pris son envol, son année de recrue. Puis, finalement, il a pas gagné la recrue de l'année. Mais j'avais pensé, là, qu'il était le meilleur jeune joueur de la Ligue cette année-là. Puis, il l'a prouvé par la suite, donc je trouve ça extraordinaire que les Olympiques le reconnaissent aujourd'hui, parce que de toutes mes années, Stéphane à Gatineau, c'est le joueur qui a soulevé les foules, là, qui a soulevé notre équipe, qui nous a fait rêver tout le monde, parce que avec lui dans l'équipe, on y a cru jusqu'au bout. Puis quand t'as la chance comme coach puis comme coéquipier de jouer avec un gars comme ça, que tu sais que c'est le meilleur de la Ligue, puis qu'il veut gagner, puis qu'il va faire tout pour gagner, t'es vraiment là, un privilégié.
parce que les gens doivent savoir aussi que la raison pour laquelle vous l'avez eu à Gatineau, c'est qu'en Ontario, on ne l'a pas repêché pendant 2 ans de suite. Ouais. Là. C'est ça ben, aussi.
Oui, exactement. La première année, je sais, tu sais, il était pas gros, là, Claude. Là. Il a pesé 170 livres à l'époque, 5 pieds 10, 170 livres, patin moyen. Donc, à sa première année junior, tu sais, le bassin joueur en Ontario, tu sais, Stéphane, il est beaucoup plus imposant que celui du Québec. Puis à sa deuxième année, ben, en ayant la mononucléose, il a certainement pas pu se faire justice. Donc, en réalité, je pense que c'est un coup du hasard, là, qui a fait que il a pas été... tu sais, à un moment donné, tu le repêches pas, mais tu l'invites. Tu te dis, je vais prendre une chance avec lui. Mais je pense que tous les facteurs mis ensemble ont fait en sorte qu'il s'est retrouvé libre, et puis que les gens n'ont pas cru en lui. Puis chez nous, bien, ça a été vraiment l'aubaine du siècle. Là. Je pense que de tous les joueurs autonomes là, que les Olympiques ont pu signer au fil des ans, il a probablement été le meilleur, sans l'ombre d'un doute. Là.
Pendant que je te parle, Benoît, je regardais les statistiques, tu as tout à fait raison. Il avait fini la saison, sa première saison, 2005-2006, il avait obtenu au moins un point à chacun de ses 11 derniers matchs. Un match de 6 points à un certain moment contre les Voltigeurs de Drummondville. Il avait connu un très, très gros mois de mars. Alors, ben écoute, tant mieux pour Claude Giroux. C'est une belle histoire. Puis, si quelque part, Benoît Groulx a contribué à ce qu'il est devenu aujourd'hui, tant mieux. Puis, les Olympiques ont récupéré un joueur de l'Ontario qu'on avait laissé pour compte, pour toutes sortes de raisons. Puis demain, ça va être un bel hommage qu'on va lui rendre au centre Albert Gartin.
Puis c'est quoi, Stéphane? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ses coéquipiers. Quand je dis, là, ils ont Claude, c'est un joueur de hockey extraordinaire, mais c'est un coéquipier extraordinaire aussi.
Ouais.
Puis s'il y a eu la chance là, de progresser comme ça, il y a eu des coéquipiers aussi qui ont cru en lui, qui ont été extraordinaires. Donc je pense que c'est bien mérité pour lui. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens autour qui l'ont connu à ce moment-là, que ce soit sa pension, que sa famille. Je me réjouis aussi pour son père et sa mère, ses oncles que j'ai connus. Donc, je pense que extraordinaire ce qui arrive, c'est bien mérité. Puis il y a beaucoup de gens qui vont se réjouir pour lui. Il n'y a aucun doute là-dedans.
Merci beaucoup, Benoît, d'avoir pris le temps. Toujours très agréable. On te voit à Laval bientôt lors d'une visite du Crunch de Syracuse dans la grande métropole de Montréal et de la Rive-Nord. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, Benoît Groulx, entraîneur-chef du Crunch de Syracuse, qui nous parlait entre autres de Claude Giroux. C'est le dernier joueur de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à avoir compilé 3 saisons de suite de 100 points. Il n'y en a pas 200 là, qui ont fait ça en carrière, 3 saisons de 100 points dans le hockey junior, et Claude Giroux en est un. Un joueur invité, choix de première ronde des Flyers de Philadelphie en 2006. Je me souviens encore de Bobby Clark qui, sur l'estrade, avait oublié son nom lorsqu'il est venu le temps de l'annoncer. Je pense qu'aujourd'hui, à Philadelphie, là, après 738 points là, en 797 matchs dans la Ligue nationale, on ne l'oubliera pas. Il a réussi sa meilleure saison en carrière l'an dernier avec les Flyers, 102 points en 82 matchs. Alors demain, il va faire, comme on dit en bon québécois, une petite saucette à Gatineau, parce que les Flyers jouent à Montréal jeudi. Alors, il va arriver en fin d'après-midi. On va l'amener en avion à Gatineau. Il va participer à la célébration. Et par la suite, il va être honoré et va revenir à Montréal pour le match de jeudi contre le Canadien. On va revenir avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour terminer notre émission, mais pour l'instant, on va se transporter à Red Deer en Alberta parce que c'est les Jeux du Canada qui sont en marche là-bas, notamment le tournoi de hockey. Et l'équipe du Québec va très bien présentement avec 3 victoires et aucune défaite. On parle avec l'entraîneur-chef de l'équipe, Martin Laperrière, qui est l'entraîneur adjoint des Remparts de Québec. Salut, Lappy, comment ça va?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va très bien, Martin. Écoute, on vous suit à distance, évidemment. Le tournoi des Jeux du Canada, faut-il le rappeler, c'est un tournoi pour les joueurs de moins de 16 ans. Il y a quelques semaines, dans le cadre de notre balado-diffusion, on avait d'ailleurs diffusé une entrevue qu'on avait fait avec toi en marge de ce tournoi-là. Et là, vous êtes en plein dedans, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a bien commencé. Surtout hier, la victoire contre l'Ontario, ça, je pense que ça va donner une bonne dose de confiance à tout le monde.
Effectivement. Écoute, je crois qu'on était dans un pool qui était quand même serré. Le premier match contre Nouveau-Brunswick a été serré. Je pense qu'on a eu une bonne opposition, malgré la différence dans les tirs de but. J'ai trouvé qu'on avait bien joué offensivement, mais il fallait se resserrer défensivement. Deuxième match a été, je veux pas dire facile, mais on a punché sur notre attaque. Ça a été très bon de ce côté-là. J'ai trouvé que les gars avaient bien répondu à l'appel là, pour resserrer certaines choses. Puis on savait que le test du 4 buts en partant, ils ont joué la carte d'intimidation. Les gars ont gardé, on a bien géré, je crois, nos émotions. Les gars ont resté focus. Et puis, on a marqué des gros buts au bon moment. Alors ça nous a mis dans une bonne position.
Je regarde les statistiques d'équipe. Évidemment, on avait beaucoup parlé de Joshua Roy avant que le tournoi commence. Jusqu'à maintenant, ça va assez bien pour lui. 10 points en 3 matchs, 3 buts, ça passe. Tu as Zachary Lheureux également des Grenadiers de Châteauguay qui connaît un bon tournoi avec 7 buts en 3 matchs. Si tu nous parlais un peu là, de tes meilleurs éléments depuis le début de la compétition.
Ben tu l'as dit, Zachary Lheureux connaît un excellent tournoi. Il y a, je pense qu'il y en a deux même en désavantage numérique. Il a été menaçant presque à chaque présence. Je te dirais que Josh et son compatriote de Lévis Nadeau, là, ça va très, très bien. Celui qui les alimente bien et qui a une belle chimie, c'est Justin Robida, qui est un excellent joueur de centre, qui a un excellent tournoi aussi.
Qui est le fils de Stéphane Robida, je veux le mentionner en passant, là, Martin, là, mais lui, contrairement à son père, c'est un attaquant. Là.
Exactement. Exactement. Et puis, mais tu sais, de très belles qualités. C'est un petit format, mais très rapide, très bon hockey sense. Alors, je crois qu'on est ferré avec nos deux premières lignes. La troisième ligne, on a réuni les trois joueurs du Lyon, du Lac-Saint-Louis qui ont une chimie ensemble. Et puis, on complète ça avec des gros bonhommes sur la quatrième trio. Mais ce que j'ai aimé à date, c'est qu'on a été capable d'utiliser tout notre monde dans différentes sauces, puis contre des bonnes lignes de l'autre côté. Alors, les gars, ils sont responsables, puis on a eu de très, très bonnes performances.
Là, votre prochain match va être en quart de finale contre le gagnant d'une rencontre entre la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard, c'est ça?
C'est un petit peu une surprise. Il y a eu du mouvement derrière les rideaux hier, parce que selon la cédule, on était supposé d'affronter le gagnant de Nouveau-Brunswick et puis Newfoundland. Okay. Il y a eu des échanges et puis... finalement, ça s'est décidé tard dans la nuit qu'on allait affronter le gagnant de BC et PEI. On sait que le pool de l'autre côté, Alberta, BC et puis Manitoba, c'est tous des gros bonhommes. Il n'y a pas personne en bas de ski. Il y a des autres, c'est différent. On a regardé leur roster. Il y a des gars déjà draftés parce qu'on dirait qu'il y a un draft Bantam qui se fait plutôt dans la saison.
Dans la Ligue de l'Ouest,
Il y a même des joueurs qui ont joué quelques matchs dans la WHL. Ça va être drôle de voir ça. Mais nous, écoute, il y a un match de plus. L'avantage qu'on devrait avoir, c'est qu'il y a un match de plus à jouer que nous. Alors, on profite de la journée aujourd'hui pour être réparer les petites blessures et puis changer le mal de place. On a pas forcé, mais les gars, vous tenez à aller voir d'autres compétitions. On a eu beaucoup de sports, des autres sports depuis notre arrivée. Alors, on est allé voir le basketball en chaise roulante avant-hier. Aujourd'hui, on vient voir la ringuette. On va retourner voir du basketball l'après-midi. Alors, je trouve que les joueurs embarquent beaucoup, dans la frénésie des Jeux du Canada, puis c'est le fun à voir.
Martin, on va se laisser là-dessus. T'as vu pas mal les équipes. Est-ce que le Québec a une chance de tout gagner? Il reste 3 matchs à jouer. Si vous allez jusqu'au bout, est-ce que tu as l'impression que vous avez l'équipe qui peut aller chercher la médaille d'or?
Alors, on est en très bonne posture, Stéphane. Écoute, je pense qu'on a l'offensive pour le faire. On a demandé aux gars de se resserrer défensivement, d'être responsable défensivement pour pas jouer la run and gun, la game open et non se faire jouer des tours. Puis les gars répondent à ça. Alors, c'est sûr que le quatrième match, c'est le knockout game. Tu n'as pas le droit à l'erreur parce que tu peux débarquer. Sauf que notre focus est à la bonne place. J'ai trouvé que les gars sont en mission et puis on va se préparer pour se donner une chance dès demain.
Oui, parce qu'avec une victoire dans le prochain match, vous êtes assuré minimum de jouer pour la médaille de bronze par la suite.
Effectivement.
Écoutez, Martin, on va vous souhaiter bonne chance. On vous suit à distance. Puis écoutez, si jamais la semaine prochaine, tu reviens au Québec avec une médaille d'or, je pense qu'on n'aura pas le choix de se reparler encore en début de semaine prochaine. Alors, bonne chance à l'équipe du Québec. On vous surveille de loin à RDS. Merci beaucoup.
Un gros merci. Bonne journée.
Voilà, Martin Laperrière, entraîneur-chef de l'équipe du Québec aux Jeux du Canada. L'équipe du Québec a gagné ses 3 premiers matchs, qui va jouer en quart de finale demain pour la suite des choses. Par la suite, il y aura le match de demi-finale et de finale s'il y a lieu. Le Québec n'a pas gagné la médaille d'or aux Jeux du Canada depuis un fichu de bout de temps. Alors, on a peut-être une chance cette année là, de démontrer qu'au Québec, on fait du bon développement. On rappelle que ce sont des joueurs de moins de 16 ans, donc des joueurs qui évoluent dans la Ligue Midget 3 qui ont 15 ans, qui sont admissibles pour la plupart à la séance de sélection de la Ligue nationale en 2021 et à la séance de sélection de la Ligue junior majeure du Québec en juin prochain cette année. On parle évidemment beaucoup de Joshua Roy, de Olivier Nadeau, on a parlé de... du jeune Robida également. Il y en a d'autres qui connaissent de bons tournois, là, l'heureux. Alors, bonne chance à l'équipe du Québec. On va terminer notre émission en parlant un peu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puisque les Huskies de Rouyn-Noranda continuent de faire parler d'eux à la grandeur du pays. Ils ont maintenant gagné leurs 19 derniers matchs, 19 victoires de suite. En fin de semaine, ils avaient un bon contrat, deux matchs face à l'Océanique de Rimouski. Évidemment, l'Océanique était en Abitibi là, depuis le milieu de la semaine, alors il y avait peut-être un peu de fatigue dans le camp de Rimouski. On avait joué deux matchs à Val-d'Or mercredi et vendredi avant de se présenter à Rouyn-Noranda samedi et dimanche, alors que les Huskies, eux, étaient frais et dispo. Et les Huskies ont gagné ces deux matchs-là, donc 49 victoires, 7 défaites, une défaite en bris d'égalité depuis le début de la saison, 99 points. Et là, les Huskies ne sont plus qu'à 6 matchs, 6 victoires du record absolu de la Ligue junior majeure du Québec établi par les Éperviers de Sorel de 1973-74, 25 victoires de suite. La seule équipe qui a vraiment menacé cette marque-là au cours des 45 dernières années, les Olympiques de Hull de 1994-95 en avaient aligné 24 avant de perdre contre les Moussets d'Halifax. Donc, la série s'était arrêtée à 24. Je me souviens très bien de ce match-là au Centre Robert Gertin, un dimanche après-midi en 1995. Ça avait été une défaite crève-cœur. Le Robert Mongrain, à l'époque, dirigeait les Olympiques de Hull. Il y a les Sea Dogs de Saint-Jean qui en ont gagné 22 également en 2009-2010. Et là, les Huskies pourraient devenir la quatrième équipe de l'histoire avec une victoire vendredi contre le Cap-Breton à coller 20 victoires... de façon consécutive là, dans une saison de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, ce sera intéressant à surveiller. Malgré les deux défaites du week-end de l'Océanique contre Rouyn-Noranda, Alexis Lafrenière s'est quand même hissé au premier rang des marqueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Le jeune attaquant de 17 ans a maintenant 92 points. Et ça va être serré, la course au trophée Jean Béliveau, parce que Lafrenière a 92 points. Peter Abbandonato des Huskies en a 91. Il a 20 ans. Ivan Tchekovic du Drakkar de Bécomo, attaquant de 19 ans, origine russe, 90 points. Et Joe Veleno des Voltigeurs de Drummondville, 89 points. C'est approché lui aussi. Donc, on peut parler d'une lutte à 4 là, pour le trophée Jean Béliveau. Lafrenière, 17 ans, pourrait imiter Sidney Crosby, qui avait gagné le championnat des marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à 17 ans. Crosby l'avait fait à 16 ans aussi à l'époque. Il n'y a pas eu d'autres joueurs de 17 ans là, qui ont gagné le championnat des marqueurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, depuis les 15 dernières années, Lafrenière est en position de le faire. Il reste 4 semaines dans la saison régulière de la Ligue junior majeure du Québec. Là, donc, entre 10 et 12 matchs là, pour chacune des formations. Ce sera une autre course à surveiller. Mais là, le focus, évidemment, les Huskies de Rouyn-Noranda. Vendredi, ils reçoivent les Screaming Eagles du Cap-Breton et samedi, les Cataractes de Shawinigan. Alors, je pense que si on réussit à battre le Cap-Breton vendredi contre Shawinigan samedi, ça devrait être une autre victoire aussi, sans rien enlever aux Cataractes. Les Cats sont 16e de la Ligue, ont une saison difficile. On voit mal comment les Huskies pourraient échapper un match à la maison contre les Cataractes. Mais le Cap-Breton vendredi, ça peut être une bonne opposition. C'est une des bonnes équipes de la Ligue, les Screaming Eagles, depuis la mi-novembre. Le joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec, Maxime Comtois, quelle semaine il a connue? Les Voltigeurs ont joué 4 matchs. Il a enregistré 16 points au cours de la semaine. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres candidats possibles dans le cas du joueur de la semaine pour le circuit Courtois cette année. Parlant de Comtois, depuis qu'il a été cédé là, par les Ducks d'Anaheim au hockey junior, il a joué 16 matchs, 5 avant la période des fêtes et 11 depuis le retour du championnat du monde de hockey junior. 18 buts, 14 passes, 32 points pour 16 matchs. Alors, il est le seul joueur de la Ligue junior majeure du Québec là, qui a une moyenne de 2 points par match depuis le début de sa saison. Évidemment, il a joué beaucoup moins de matchs. Peut-être un petit retour. On n'était pas là la semaine dernière sur la classique hivernale qui a eu lieu à Saint-Tite le week-end du 8 et 9 février. Je veux féliciter l'organisation des Cataractes de Shawinigan. J'ai assisté au match du samedi contre les Remparts de Québec en après-midi. Peut-être que la foule a été moins bonne qu'il y a 4 ans. On a attiré un petit peu plus de 10 000 spectateurs là, pour les deux matchs. Mais quel endroit magique et magnifique pour présenter des matchs en extérieur. Les Cataractes qui ont perdu le vendredi contre Rimouski avant de vaincre les Remparts de Québec samedi. Maintenant, la suite. Est-ce qu'il y aura d'autres classiques hivernales au cours des prochaines années dans la LHGMQ? Probablement. Je pense pas qu'on va retourner à Saint-Tite pour tout de suite. L'organisation des Cats l'a fait deux fois, en 2015 et cette année. C'est beaucoup d'investissements, tant au niveau du temps, de l'argent et tout ça. Alors, chapeau aux Cataractes de Shawinigan pour cette belle réussite match de hockey en plein air. Et peut-être que l'an prochain ou dans deux ans, j'ai l'impression que l'an prochain, il n'y en aura pas, mais peut-être que dans deux ans, on se retrouvera pour un match en plein air à Sherbrooke, même à Saint-John au Nouveau-Brunswick, qui semble-t-il s'est intéressé au dossier aussi. Certains ont parlé même des Remparts de Québec. On verra bien, mais c'était la troisième fois là, que la Ligue junior majeure du Québec avait une classique hivernale. Il y avait eu Saint-Tite en 2015, Drummondville l'an dernier et à nouveau Saint-Tite cette année. Quelque chose qu'on va sûrement répéter au cours des prochaines années. Peut-être un petit mot en terminant. On a parlé avec Martin Laperrière tantôt au niveau du hockey midget. La saison régulière est terminée dans la Ligue midget 3. On est en pause là, avant le début des séries éliminatoires. Puisque la plupart des meilleurs joueurs de la Ligue participent aux Jeux du Canada. Alors, il n'était pas question, évidemment, de commencer les séries éliminatoires dans la Ligue Midget 3A en l'absence de ces joueurs d'impact là, pour chacune des formations. Faut évidemment souligner, on en a parlé toute l'année, là, mais la saison incroyable des Chevaliers de Lévis, pardon, j'allais dire les Commandeurs, les Chevaliers de Lévis, 41 victoires et une défaite, une saison record. Et les Chevaliers vont amorcer leurs séries éliminatoires le 26 février prochain, donc mardi prochain, face aux riverains du Collège Charlemagne. Il y aura 7 séries en première ronde qui vont s'amorcer mardi prochain, le 26 février. Et tout ça va nous mener aux gagnants de la Coupe Jimmy Ferrari pour représenter le Québec à la Coupe TELUS. Évidemment, les Chevaliers sont favoris, mais il faudra se méfier aussi des Cantonniers de Magog qui ont connu toute une saison. On en a parlé moins en raison de peut-être l'ombrage que les Chevaliers de Lévis ont porté sur les autres formations. Mais Magog est la seule équipe, faut-il le rappeler, à avoir vaincu les Chevaliers de Lévis cette saison. 41 victoires, une défaite. Le champion marqueur de la Ligue Midget 3 cette année, c'est Joshua Roy, qui joue justement avec l'équipe du Québec aux Jeux du Canada. Il a connu une campagne phénoménale et il est considéré comme le premier espoir en vue de la séance de sélection de la Ligue junior majeure du Québec qui aura lieu en juin prochain à Québec. Bon, ben voilà, ça fait un peu le tour de notre édition numéro 17 de notre balado-diffusion sur la glace. Je pense que ça a été extrêmement intéressant aujourd'hui de s'entretenir autant avec Martin Laperrière, que je remercie, à Red Deer, Benoît Groux à Syracuse, qui nous a parlé là, de la cérémonie qui aura lieu demain pour retirer le chandail de Claude Giroux avec les Olympiques de Gatineau. Merci également à Raphaël Doucette qui était là pour nous parler de la semaine du Rocket de Laval, le Rocket qui joue demain à Syracuse. Vendredi et samedi, retour à la Place Belle face au Moose du Manitoba, dirigé par Pascal Vincent. Visite annuelle du Moose du Manitoba, la seule confrontation dans la saison où une équipe de l'Association de l'Est joue contre une de l'Association de l'Ouest. Question de garder la rivalité canadienne. Merci également à notre équipe technique, notre collègue Luc Dansereau qui était là. Je vous remercie d'avoir été là, puis on se reparle la semaine prochaine. Salut!